Salut, comment ça va? Ça fait du bien de se retrouver, de se revoir. 15 jours sans épisode déjà, mais on était occupés, on doit vous le dire, très occupés même avec nos étudiants, nos élèves. Entre nos cours, Violaine, notre club d'écriture, on n'a pas trop eu le temps voilà, d'enregistrer un épisode. Mais nous sommes là pour un nouvel épisode.
Coucou, salut à tous. Bah ouais, vous nous avez manqué et puis j'espère que c'est réciproque.
Est-ce que ça fait plaisir de reprendre ?
Ça me fait très plaisir, ouais. Moi, tu sais que j'adore le confort du micro. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Être un peu derrière, un peu caché. Là, j'ai mon petit verre d'eau posé devant moi. Et puis, on va discuter. Donc, ça me rend heureuse. Ouais, je suis très contente de reprendre nos discussions aujourd'hui.
D'autant que je trouve que le sujet d'aujourd'hui s'y prête à merveille, le droit à la paresse. Vous l'avez lu dans le titre, il tombe à pic ce sujet, comme on dit. Il tombe au bon moment, il ne pouvait pas plus coller à notre quotidien, Violaine, en ce moment.
On peut dire qu'il correspond parfaitement à la réalité, en tout cas à la nôtre.
Ouais, parce que nous, personnellement, on n'a jamais eu autant de travail. En tout cas, qu'aujourd'hui, de choses à faire. Bon, on ne va pas dire qu'on était débordé, Violaine, mais voilà, avec toutes les choses qu'on doit faire, auxquelles il faut penser, vous le savez certainement, hein, les gens qui nous écoutent, mais quand on crée une entreprise, ben, on doit tout faire, hein, tout soi-même de A à Z. En tout cas, c'était notre cas. Donc, on avait pas mal de pain sur la planche, et on a pas mal de pain sur la planche en ce moment. Donc, voilà. Parler de paresse aujourd'hui dans ce sujet de podcast, pourquoi pas ?
Ouais, pourquoi pas ? C'est vrai que ça résonne en nous, ça fait écho à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit ces derniers temps. Donc, je suis d'accord avec toi, on peut y aller.
Mais voilà, on est de retour à fond, très chaud pour entamer cette discussion autour du droit à la paresse. On va en débattre. On a plein de questions, plein d'interrogations sur ce concept, cette idée. C'est même une philosophie qui n'est pas nouvelle, mais qui est peut-être naissante, en tout cas
émergente.
Émergente, voilà, doucement, en France.
Ouais, et je t'avoue que j'ai bien envie de connaître ton point de vue sur la question, parce que je pense qu'il sera légèrement différent, qu'il va différer légèrement du mien, et je pense qu'on ne va pas être sur la même longueur d'onde, donc j'ai hâte.
Eh bien, c'est rassurant, vive le débat, on va voir.
Mais avant de s'affronter dans ce débat, on va peut-être revenir sur la théorie. D'où vient cette notion de droit à la paresse ? Est-ce que ça existe en France ? Est-ce que c'est populaire ? Est-ce que les Français y sont sensibles ?
Et est-ce que les Français sont paresseux ? Ou est-ce qu'ils veulent l'être ? Peut-être un peu plus, totalement ? On verra.
Ouais, je crois qu'on s'attaque là à pas mal d'idées reçues sur la question, à pas mal de stéréotypes. Et puis, il faut le reconnaître, cette notion de droit à la paresse, c'est assez abstrait. Tout le monde n'a pas son opinion ou d'idées concrètes sur ce sujet. Donc, on va essayer de donner des pistes de réflexion, Nathan, pour vous aider à vous forger une opinion.
Alors, le droit à la paresse, déjà, c'est une notion qui, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, qui n'est pas totalement nouvelle, hein, qui est légèrement ancienne, qui date du 19e siècle. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en fait, cette notion a été écrite pour la première fois dans un livre écrit en 1880 par un Français, Paul Lafargue. Et c'est lui qui a expliqué, qui a lancé, qui a émis cette idée de droit à la paresse. La paresse n'est pas un défaut, selon lui. Et à l'époque, c'est vrai qu'on est dans un contexte de la révolution industrielle, hein. C'est vrai que il y a des conditions de travail qui sont assez difficiles, les ouvriers travaillent beaucoup, les journées de travail sont longues, et donc c'est dans ce contexte-là un peu économique, historique, que naît cette notion de droit
Exactement.
À la paresse.
Ouais, exactement, ça naît à cette période. Et puis, petite anecdote, Paul Lafargue, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le gendre de Karl Marx. Il est donc marié à la fille de Karl Marx.
C'est voilà. Ça. Si on veut résumer en deux mots, le droit à la paresse, c'est quoi ? C'est pour lui, dans cette période-là, c'est de valoriser le temps libre, d'essayer de mettre en avant les loisirs.
Ouais, et c'est aussi pour lui le droit à la paresse, le droit de ne rien faire de productif, économiquement parlant.
Voilà. Donc, concept né en 1880, et puis, alors, on en parle aujourd'hui en France parce que, en fait, dans le contexte français, il est actuel. À gauche, notamment, on a une députée française connue, hein, qui est écologiste. C'est l'une des fondatrices du Parti Vert, du Parti Europe Écologie Les Verts en France, qui s'appelle Sandrine Rousseau. Et bon, elle est économiste, elle fait partie un peu de l'aile gauche, hein, la partie gauche de ce parti en France. Et c'est elle qui, en fait, depuis quelques mois, quelques années, en tout cas, défend ce principe. Elle essaye de le mettre en avant en France et on en parle dans les médias, elle va sur les plateaux télé et elle dit ça. Et j'ai vu un tweet passer d'elle il y a quelques semaines qui disait voilà que pour elle, le droit à la paresse, c'était vraiment l'avenir. C'était un intérêt majeur, un intérêt central pour penser, pour réfléchir à l'avenir de notre société et de la France. Et aujourd'hui, donc, toute la France en parle, en tout cas, ça fait l'actu parce qu'il y a Sandrine
Il y a
Rousseau.
Sandrine Rousseau, mais il y a aussi les gens qui vont contre ce principe. Je pense que c'est ça que tu veux peut-être
Ouais.
mentionner. Je pense qu'on fait référence à la même personne, donc à Gabriel Attal, qui est notre
Exactement.
Premier ministre et qui a fait son discours de politique générale, qui est donc le discours qu'il prononce quand il prend ses fonctions, quand il est devenu Premier ministre.
Il est devenu Premier ministre récemment, il
Très
y a,
récemment,
voilà,
ouais.
en janvier 2024.
C'est ça. Il dit en gros, dis-moi si je me trompe, hein, mais il dit personne ne doit demander le droit à la paresse en France. Et au contraire, dans ce discours, lui, il va beaucoup, beaucoup parler de la valeur travail. Et je crois qu'il va parler majoritairement du travail et de comment le travail forge nos sociétés.
Et lui, pour la petite anecdote, il dort 4 heures par nuit. Donc voilà, lui, il n'est pas du tout dans cette même vision. Je trouve que cette notion de réflexion sur le temps de travail, sur le temps du repos, sur le temps des loisirs n'est pas nouveau, n'est pas nouvelle. En France, hein, on a eu la loi sur les 35 heures déjà qui ont réduit le temps de travail, les vacances, les congés payés. Et puis, est-ce que tu te souviens du ministère du temps libre dans les années 80?
Bien sûr, c'était sous
Donc,
Mitterrand.
sous Mitterrand, on a créé un ministère juste pour réfléchir à ça. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, si on en parle beaucoup aujourd'hui en 2024, c'est une réflexion en France qu'on a déjà depuis quelques temps. Est-ce que tu crois que les Français défendent ce droit à la paresse? Est-ce que les Français sont plutôt pour plus de loisirs, plus d'activités, plus de temps libre?
Je pense que, alors je ne vais pas parler au nom de tous les Français, mais je pense qu'il y a une lassitude dans notre société actuelle de l'injonction au travail et ouais, qu'il y a une volonté d'accorder moins de place au travail et que le travail arrête d'occuper une place centrale dans nos vies.
Depuis la pandémie,
C'est ça.
surtout, il y a de plus en plus de Français qui considèrent que le travail a une place secondaire dans leur vie. J'ai même trouvé un chiffre, je dois te l'avouer. Il y a 60% des Français, voilà, qui disent que le travail a une place moins importante chez eux. Donc la crise sanitaire est passée par là, a joué un rôle. Mais voilà, ils veulent maintenant, beaucoup de Français considèrent que c'est bien de partager le travail. De considérer que dans la vie, bah, c'est bien de faire autre chose. Donc, cette vision de Sandrine Rousseau, qui est apportée par une députée de gauche écolo en France, elle est quand même partagée par une bonne partie des Français, tu vois.
Oui, puis je pense que ça va de pair avec tout ce qu'il y a eu dans les dernières années, dans les dernières décennies sur les conséquences néfastes du travail, notamment des gens qui ont eu des problèmes de santé, des gens qui se sont donné la mort parce que leur travail devenait insupportable. Je vois aussi toute une tendance qui émerge sur les réseaux sociaux, des gens qui disent mais prenez conscience que si demain vous mourrez, votre boss, il vous aura remplacé en une journée. Donc dédramatisons le travail et la place qu'on accorde au travail dans notre société.
Il suffit de regarder du côté des hôpitaux psychiatriques en France, par exemple, d'aller voir le nombre de consultations chez le médecin pour des problèmes de dépression, d'anxiété ou de burn-out. Hein. Il y a énormément de Français, de plus en plus là aussi, qui font des burn-out. Hein. Là encore, j'ai vu un chiffre, mais voilà, il y a 40% des salariés qui sont en situation de burn-out en France. Donc, c'est pas mal de repenser à ça.
Bah, parce qu'en plus, je pense qu'on a évolué pendant très longtemps, comme je disais tout à l'heure, une injonction au travail, au fait de beaucoup, beaucoup travailler, à tel point que dans nos sociétés. Alors en France, mais je sais que c'est le cas aussi dans d'autres pays, on a créé ce qu'un auteur américain, j'ai oublié son nom, a appelé les bullshit jobs, donc des jobs, des travails qui ne servent à rien, qui ne sont pas indispensables à la société, pour en fait occuper les personnes. Et voilà, cette injonction au travail, c'est toujours cool de dire qu'on a beaucoup de travail. On va toujours dire « Oh là là, je suis sous l'eau, je suis débordée ». Ça, c'est des manières d'exprimer qu'on a beaucoup de travail en français. Et ça apparaît toujours comme hyper valorisant, alors que quelqu'un qui va dire « Bah non, non, j'ai rien de spécial à faire, je suis tranquille, tout va bien », ça peut paraître moins cool ou moins apprécié. Mais voilà, je pense que maintenant, les gens en ont un peu marre d'oublier peut-être qui ils sont ou de peut-être subir leur vie, regarder leur vie défiler sans pouvoir en profiter pleinement.
Oui, et le droit à la paresse, quand on parle de droit à la paresse, on ne veut pas dire, ça ne signifie pas s'arrêter totalement, ne rien faire, tu vois, rester au lit, glander.
Pas du tout,
c'est très réducteur, c'est caricatural, mais ce serait plus de diminuer peut-être le temps de travail et de prendre, tu l'as dit, hein, de prendre du temps pour soi, pour le travail aussi qui est non productif. Et sur ça, là aussi, ce n'est pas totalement nouveau parce que, bah, tu le sais, Violaine, moi j'ai étudié à Bordeaux et à Bordeaux, parmi les personnalités qui ont fait aussi la ville et l'histoire de cette ville, il y a le philosophe Montaigne.
Bien sûr.
Et lui, déjà là on est au XVIe siècle et lui dans son ouvrage, dans ses essais, il dit cette phrase que le propre d'un grand homme d'État, c'est de savoir dormir, de savoir se reposer pour pouvoir justement être plus frais dans la réflexion.
Exactement.
Pouvoir mettre les événements un peu à distance. Et lui, qui était magistrat à Bordeaux à 38 ans, je crois que c'est ça. Alors, l'espérance de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais à 38 ans, il était très fatigué par son travail. Il a décidé de démissionner. Et voilà, il a quitté son poste et il s'est retiré dans ses bibliothèques pour justement profiter de la tranquillité, pour profiter davantage des loisirs.
C'est ça. Il a été donc oisif, puisqu'on parle de paresse. Un des synonymes, c'est l'oisiveté, donc être oisif. C'est ce qu'a été Montaigne, donc en arrêtant sa carrière de juge magistrat à 38 ans, pour se consacrer à la lecture et profiter de la vie.
Ouais. Et c'est même une réflexion philosophique en fait à avoir sur le modèle de société, se dire que le travail au sens noble, c'est pas forcément produire, c'est aussi
réfléchir
en fait, c'est transformer un peu ce qui existe, le réel, mais ça peut être par exemple s'occuper de ses enfants, même faire les tâches ménagères. Alors c'est pas forcément noble, mais ça n'entre pas dans le côté productif et ça fait partie aussi du travail. Et puis jardiner par exemple, quand on s'occupe de son jardin, c'est une forme de travail, c'est du travail.
C'est ça. Et même s'occuper de ses enfants, comme tu dis, qui est un des travaux peut-être les plus importants de notre société, puisque les parents éduquent leurs enfants et parfois arrêtent un travail productif, salarié, pour s'occuper de leurs enfants. C'est pas rémunéré actuellement en France, alors que c'est sûrement un des jobs les plus épuisants de notre société. Juste aussi s'engager dans une association et aider par exemple les personnes qui ont besoin d'aide, donc les plus démunis, c'est pas rémunéré actuellement en France, alors que c'est ce qui fait évoluer notre société.
Est-ce que tu sais que le New York Times, le grand quotidien américain, avait titré il y a quelques mois, s'était demandé est-ce que les Français sont des fainéants. Quel est ton point de vue ?
Je vais répondre par deux statistiques. Première statistique, sachez que les Français ont un taux de productivité supérieur à la moyenne dans les pays européens. Et donc on a parlé tout à l'heure de la loi des 35 heures, ce que je dis souvent aux étudiants et ce que je vais répéter ici. Tout le monde n'est pas aux 35 heures en France. Il y a beaucoup de gens qui travaillent plus. Il y a des contrats de 39 heures notamment. Et la France fait partie des pays qui travaillent le plus. Par exemple, les Français travaillent plus que les Allemands. Donc, voilà.
Donc ça, c'est une idée reçue.
C'est une idée un peu reçue, en tout cas sur la productivité, le fait que les Français ne travaillent pas. Je pense que c'est faux. Autour de moi, je connais énormément de personnes qui travaillent beaucoup, des travailleurs acharnés. Donc voilà, je pense que c'est un vrai stéréotype.
Et nous-mêmes, on travaille beaucoup.
Et nous-mêmes, et les Français ne rechignent pas à travailler. Mais bon, après, comme les Français contestent beaucoup, c'est vrai que les conditions de travail, l'âge jusqu'auquel on va travailler, on va avoir tendance à le remettre en cause, à un peu remettre en question tout ça, voilà, parce que c'est dans notre nature.
Donc, les Français sont productifs, travaillent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même qu'au sens historique, même récent, on travaille de moins en moins.
Exactement.
Le temps de travail, la durée, le nombre d'heures par semaine a diminué. Sur l'année, quand on était en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, les Français, je crois, travaillaient environ 2000 heures par an.
C'est ça.
Maintenant, on travaille 1400 heures. Donc, en fait, on est déjà passé dans cette société de loisirs. Elle existe déjà.
Mais ça n'empêche pas que même si on travaille moins, même si on est passé dans cette société de loisirs à l'échelle nationale, bah, comme tu dis, il n'y a jamais eu autant de burn-out. Donc, il doit y avoir un problème quelque part, c'est-à-dire que les Français travaillent moins, mais il y a du burn-out, du bore-out, des gens qui s'ennuient dans leur travail et qui vont faire une dépression suite à ça. Donc, il doit bien y avoir un problème quelque part. On travaille moins, plus de loisirs, et pourtant les Français sont malheureux ou les gens peuvent être malheureux dans leur travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut repenser un peu tout ça, non ?
Ouais, repenser, on va en parler. Mmh. J'aimerais quand même, là maintenant, on a abordé les avantages de ce droit à la paresse, en tout cas, voir un peu les arguments pour et les arguments en faveur de ce droit à la paresse. J'aimerais qu'on voit ensemble, Violaine, les arguments contre, quand
Bien
même,
sûr.
Parce qu'il y en a, moi personnellement par exemple, je dois te l'avouer, je prends un peu ce qu'il y a d'un côté, je prends ce qu'il y a de l'autre, je comprends un peu les deux parties, c'est assez rare que je sois comme ça, mais je comprends les deux côtés, et c'est vrai que moi personnellement, et je crois que beaucoup de Français partagent aussi cet avis, et pas que des Français, hein, toutes les personnes aussi qui travaillent, dans le travail on trouve aussi du bonheur, on trouve du bien-être. C'est une source de plaisir. Et alors, tout à l'heure, on a parlé de Montaigne. J'ai envie de parler de Voltaire, un autre grand philosophe des Lumières, qui, lui, disait que grâce au travail, eh bien, on écarte l'ennui. On écarte le vice et on écarte le besoin. C'est ce qu'il a dit. Et personnellement, je trouve que je suis assez d'accord. Et socialement, psychologiquement, j'ai besoin de ça.
Alors ça, sur le côté social, je suis totalement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, le travail, c'est ce qui ancre socialement une personne, ce qui lui donne une fonction, ce qui lui permet de trouver un rythme, de connecter avec d'autres personnes. Ça, je suis totalement d'accord.
C'est la liberté aussi, finalement. Une forme de liberté, on peut, grâce au travail, en tout cas, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Grâce au travail, on a un salaire, normalement, et le salaire permet aussi d'être, de vivre plus librement. De faire
Bien
un
sûr.
Peu ce qu'on veut,
Bien sûr.
Un minimum.
Mais ce que tu disais sur l'ennui, je trouve que c'est très intéressant parce que quand on travaille pas, on s'ennuie. Moi, je suis totalement comme toi, hein, tu le sais. Quand je ne travaille pas, quand je pense pas au podcast ou à autre chose, je peux m'ennuyer et culpabiliser de ne rien faire lié à ça. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on a, dans nos sociétés modernes, contemporaines, je pense qu'on n'a jamais appris à dompter l'ennui, à accepter l'ennui. L'ennui, ça peut être hyper positif, comme tu disais, ça peut être ne rien faire et avoir et penser, réfléchir, lire et en fait avoir après un cerveau plus frais, comme tu disais, pour faire autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est constamment sollicité par les réseaux sociaux, par les écrans, et donc on a oublié de s'ennuyer. Et je trouve ça dommage, et moi j'aimerais bien qu'on réapprenne à s'ennuyer.
Intéressant. J'ai tendance à penser aussi que cette notion de droit à la paresse, parfois, est une considération de bobo, de bourgeois
clairement.
Bohème un peu, c'est-à-dire de rêveur, de bohème, d'utopiste aussi, de personnes un peu déconnectées. C'est presque, j'ai envie de dire, la flemme, ou en tout cas la paresse, c'est presque un truc de bourgeois.
Je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, là, dans le monde dans lequel on vit, hein, puisque le débat qu'on a, c'est en référence au monde dans lequel on est actuellement. Et comme tu disais...
Oui, le modèle de société.
C'est ça. Et comme tu disais, bah, aujourd'hui, malheureusement, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Donc, quelqu'un qui ne fait rien de productif et rien de rémunéré, bah, il n'a pas d'argent. Donc oui, les personnes, les intellectuels un peu bourgeois qui ont de l'argent sans travailler parce qu'ils viennent d'une famille riche ou parce qu'ils sont rentiers, par exemple, je ne sais pas, bah, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui doit trimer, qui doit énormément travailler pour gagner de l'argent.
Et quand je dis que c'est parfois un truc de bobo, c'est qu'en fait, bah, pour qu'il y ait subjonctif, pour qu'il y ait des gens qui soient paresseux ou qui puissent un peu profiter comme ça, se détendre, bah, il faut qu'il y ait des gens qui bossent. C'est le modèle, c'est notre société, c'est le modèle économique en tout
c'est
cas de la
ça.
Société actuelle et de la société française. On est dans un modèle de redistribution, c'est le fonctionnement de la sécurité sociale en France. Pour qu'on ait ce système de redistribution, pour qu'il y ait des cotisations, pour qu'on puisse voilà, avoir des gens, par exemple, qui bénéficient de systèmes de redistribution, d'aides, d'allocations, etc. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, il faut qu'il y ait des gens qui bossent derrière ça. Tu vois, donc pour qu'il y ait des rêveurs, pour qu'il y ait des gens qui soient paresseux au sens de droit à la paresse, il faut qu'il y ait toute une économie derrière avec des gens, des salariés, des
C'est
ouvriers,
ça.
des employés qui bossent.
Exactement, et qui tiennent le pays et qui le fassent fonctionner sur le modèle dans lequel on est actuellement.
Et le travail, c'est un devoir au sens de la Constitution française. C'est vrai que cette notion est aussi dans la Constitution de la France. Chacun a le devoir de travailler. Voilà, c'est vraiment la base même juridique de notre Constitution, de notre modèle.
Bien sûr. Mais qu'est-ce qui est du travail et qu'est-ce qui ne l'est pas, comme on disait tout
c'est
à
vrai.
l'heure, parce qu'il y a beaucoup de travail qui ne sont pas rémunérés, notamment associatifs, notamment voilà, des personnes qui gardent les enfants, qui s'occupent de leurs enfants et tout ça.
Tout est dans la définition. Qu'est-ce qu'on met
Exactement.
Dans la notion de travail? C'est vrai que politiquement, on pourrait schématiser comme ça. On pourrait dire que oh, allez, le droit à la paresse, c'est un truc de gauchiste, de gaucho. Et puis le travail, ce serait une valeur de droite. On pense toujours ça. Là aussi, je pense qu'il faut relativiser hein, à la base en France. Historiquement, en tout cas, la gauche française, la gauche ouvrière... mettait en avant la valeur travail, c'était
Bien
très
sûr.
important, notamment pour le Parti Socialiste Français. Et puis aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a vraiment deux gauches. Hein. On schématise comme ça, on dit il y a la gauche un peu du travail et puis il y a la gauche des allocs, la gauche des
Ouais.
allocations. C'est comme ça un peu parfois qu'on le définit.
Mais tout à l'heure, on parlait de Paul Lafargue qui a théorisé le droit à la paresse et qui est donc le gendre de Karl Marx. Ils étaient tous les deux en conflit, ils s'entendaient pas du tout. Parce que Karl Marx, voilà, pour lui, le travail, ça restait central. Donc il y a encore toute une gauche qui défend cet aspect.
Karl Marx et Paul Lafargue étaient de gauche, mais il y avait un communiste et un anarchiste.
Ouais,
Alors,
c'est
ils
vrai.
n'étaient pas totalement sur la même longueur
C'est vrai.
d'onde. Mais voilà, c'est très intéressant en tout cas. En gros, pour résumer, je pense que le combat là-dedans, dans cette question de droit à la paresse, c'est pas de savoir s'il faut travailler ou pas, mais c'est plutôt comment on travaille, dans
Exactement.
quelles conditions, et c'est plutôt, ça concerne pour moi le travail digne, travailler
Ouais.
dignement, c'est ça.
Comment repenser le travail en 2024 pour que voilà pour trouver un équilibre et pour que tout le monde s'épanouisse et que tout le monde ait du travail à l'heure actuelle. Sur les pistes, est-ce que tu as autre chose à ajouter ou est-ce qu'on peut commencer les petites pistes de réflexion?
C'est parti.
Bah, une des solutions qui a déjà émergé politiquement en France, c'est le revenu universel. Alors,
qu'est-ce que c'est?
concrètement, ouais, le revenu universel, ce serait une somme d'argent que le gouvernement donnerait aux citoyens. Qu'importe que le citoyen soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il n'en ait pas du tout, tout le monde recevrait la même somme. Ce serait une somme qui nous permettrait de vivre dignement.
Ce serait une base.
Voilà, de subvenir à nos besoins les plus essentiels. Et chacun aurait la liberté de travailler en supplément, voilà, de continuer de travailler. Ce qui changerait la perception du travail, ce qui voudrait dire que le travail ne serait plus une contrainte, mais que ce serait donc un plaisir et qui encouragerait les gens à faire ce qu'ils aiment. Voilà.
Et c'est un ancien candidat à la présidentielle qui a lancé cette idée en France. C'était en 2017, je crois, pour l'élection présidentielle. Et il s'appelle Benoît Hamon. Alors, il était au Parti Socialiste, mais là aussi, l'aile gauche, hein, à gauche du Parti Socialiste. Et lui, je crois qu'il avait donné un montant. Il parlait de 600 euros minimum pour tous. C'était ça, son salaire universel, son revenu universel de base. 600 euros. Pour vivre en France. Évidemment, c'est pas suffisant. C'est vraiment le minimum.
Mais ce serait voilà, quelque chose qui assurerait un minimum de dignité pour tous. Alors, aujourd'hui, en France, moi, c'est mon point de vue. Je pense que ça ne fonctionnerait pas parce que, en France, encore aujourd'hui, on estime que l'argent doit venir de notre travail. Donc, c'est une idée qui n'a pas trouvé preneur. Bon, bah, la preuve, hein, Benoît Hamon, il a fait 6% au premier tour de l'élection présidentielle de 2017.
Peut-être qu'il n'a pas perdu à cause de ça.
Mais beaucoup d'analystes ont dit que c'était à cause de cette mesure que beaucoup ont jugé irréalisable, que beaucoup ont jugé voilà, complètement anachronique.
Mais pourquoi il avait lancé cette idée de revenu universel, Benoît Hamon, et son postulat de base que je trouve, moi, intéressant et bon, c'est qu'aujourd'hui, il considère qu'avec la révolution numérique, avec l'automatisation, avec la mécanisation, en fait, tout le monde ne pourra pas avoir un travail.
Exactement.
Et en fait, bah, y aura moins de travail pour tout le monde, ce sera plus rare. Et donc, bah, s'il y a moins de travail pour tout le monde, pourquoi ne pas accepter cela et donc que les gens réduisent leur temps de travail et qu'ils profitent d'autre chose, qu'ils fassent autre chose. Ça, c'était son idée de base qui était bonne. C'est juste qu'on était en 2017 et je trouve que depuis 2017, on est aujourd'hui en 2024, les mœurs ont aussi changé, on a évolué sur cette notion.
Et la pandémie est passée par là. Évidemment. Et puis, Benoît Hamon, beaucoup lui disaient que c'était réalisable. Juste, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que lui voulait financer cette mesure parce qu'il estimait que ça allait doper la consommation et les ventes et tout ça. Donc, voilà comment ça aurait financer un peu cette mesure.
Ça va peut-être revenir, il y a d'autres candidats qui en parlent et peut-être on verra. Il y a un autre concept aussi qui est sur le point d'être testé en France, qui est en train d'être testé, c'est tout récent. C'est la semaine des 4 jours qui n'existe pas qu'en France. Je crois qu'elle a été testée aussi dans des pays scandinaves, en Espagne, on le sait. Et puis en France, donc c'est passé de 5 jours de travail à 4 jours. Mais on va travailler autant d'heures. Ça veut dire qu'on va mettre plus d'heures par jour. Donc est-ce qu'on est vraiment dans cette notion de réduire le temps de travail, d'améliorer les conditions de travail? D'un point de vue personnel, je ne suis pas convaincu.
Je ne suis pas sûr. Dans les conditions dans lesquelles elle est testée en France, je ne suis pas sûre. Après, l'idée de la semaine des 4 jours est quand même assez cool. Et d'autant plus dans un monde, comme tu le dis, où on est de plus en plus nombreux, bah en fait, il va falloir le redistribuer, ce travail. Si tout le monde doit avoir un travail, bah, va falloir que les gens acceptent de travailler moins et de partager le temps de travail avec d'autres personnes pour que tout le monde puisse trouver un équilibre et une certaine situation de stabilité.
En tout cas, c'est un débat qui est à la fois politique, économique, écologique et philosophique. On en a parlé tout à l'heure, qui est passionnant, je trouve, ce débat.
Super débat.
Et on n'a pas de point de vue arrêté, strict.
Il y a toujours des nuances à apporter, mais c'est vrai que c'est un débat qui est important parce que ça parle du travail, ça parle du temps libre. Et comme je le disais au début, notre temps libre, notre temps de travail, c'est des choses qui sont foncièrement politiques.
Donc, on devrait en reparler, je pense, dans les mois à venir, dans les années à venir. Évidemment, c'est un débat qui est intemporel pour l'instant. Et voilà, on en reparlera peut-être, Violaine. Est-ce qu'on peut passer peut-être à une recommandation? Est-ce qu'on en a une aujourd'hui? Je ne sais pas, une musique, un livre, une série, un film, comme souvent d'ailleurs en ce moment, on recommande plutôt le cinéma. Est-ce qu'on a quelque chose qui est lié à notre thème aujourd'hui, à la paresse, au droit à la paresse?
Évidemment. Si vous avez envie de rien faire, de vous la couler douce, de vous tourner les pouces, de ne pas lever le petit doigt, 3 petites expressions qui sont synonymes de ne rien faire. On a un film pour vous qui s'appelle Merci Patron. Alors, plus qu'un film, c'est un documentaire et c'est un documentaire qui a fait la une du New York Times. quand même. Et c'est un film, un documentaire qui a été réalisé par François Ruffin.
Qui n'est pas n'importe qui.
Exactement.
Qui est François Ruffin ?
C'est un homme politique qui est devenu assez important maintenant en France. C'est un député, donc il appartient au parti Insoumis, pour ceux et celles qui connaissent. C'est pas forcément ma tasse de thé, hein, le parti, voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, mais j'aime François Ruffin, j'aime ses convictions, j'aime sa franchise, je trouve qu'il triche pas avec ses idées et ses valeurs, et surtout il a fait ce film avant de se lancer complètement en politique. Avant, il était journaliste, c'est mais vrai. Il n'était pas que journaliste, il était ouvrier. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vient du peuple. Et ce documentaire, il est incroyable. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il parle ?
Oui, alors, merci patron. C'est un documentaire qui a eu en plus un César. Donc, c'est pas seulement notre avis. Hein. Il a été récompensé par le cinéma français il y a quelques années. Et en fait, ce film parle d'une famille française, d'un couple même, ouais. Qui est licencié, qui perd son travail après une délocalisation. Donc, la production a été délocalisée, une usine a fermé. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui arrive. Une famille se retrouve déchirée à la porte, sans argent. Et l'entreprise, surtout en question, appartient à Bernard Arnault.
Ouais, Bernard Arnault, grand patron français, milliardaire, qui est une des personnes les plus riches de France, qui a un empire dans le luxe, le groupe LVMH, à qui appartient Louis Vuitton, pas Hermès, mais Louis Vuitton notamment.
François Ruffin, en fait, c'est un peu le Michael Moore français.
Ouais.
Il parle beaucoup de social.
Ouais, dans ce film, en fait, il va suivre toute la trajectoire de ce couple, comment ils descendent aux enfers après cette délocalisation. Et puis, il va aussi les aider à obtenir leurs droits, à obtenir ce qui leur est dû. Et en fait, c'est à la fois triste, mais c'est aussi extrêmement savoureux. Et voilà pourquoi on vous le recommande, parce que ça documente une partie importante de notre système économique et du rapport de force qui peut exister entre des patrons et leurs employés.
On l'a compris, le lien est un peu tiré par les cheveux. Hein.
Comme souvent.
Le lien est léger, mais en fait, François Ruffin, pourquoi on parle de lui, c'est que lui, il est de gauche, mais il tient au travail.
Exactement.
Pour lui, la valeur travail est très importante, et donc il n'est pas d'accord avec Sandrine Rousseau, la députée écolo, dont on a parlé tout au début de cet épisode. C'est pour ça aussi qu'on recommande ce film, et parce qu'on en a entendu parler encore récemment, et c'est vrai que j'avais un peu oublié, parce qu'il date, hein. Je crois que ce film a été réalisé il y a 8 ou 9 ans.
Ouais, je crois 10 ans même, je dirais.
Mais ça vaut la peine vraiment pour comprendre le côté plus social de la France.
Mais c'est vrai que voilà, François Ruffin et Sandrine Rousseau, c'est l'exemple type de deux profils à gauche qui s'opposent. François Ruffin, comme je disais, c'est quelqu'un qui vient du peuple, et Sandrine Rousseau, un peu plus de la bourgeoisie.
Voilà pour cet épisode. Je crois qu'on a fait le tour, on a terminé.
Ouais.
C'était intéressant, passionnant. On avait juste pris quelques notes, mais pas de texte. Donc voilà, c'était vraiment une discussion. Finalement, le bilan, c'est qu'on est d'accord sur certaines choses globalement. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'attache peut-être plus de sens à cette notion de travail.
Tu es peut-être plus mesuré dans tes propos.
Voilà, on appartient peut-être à deux camps différents. Mais moi, en tout cas, j'ai envie de savoir quel est l'avis des personnes qui nous écoutent sur ce thème, le droit à la paresse, pour ou contre, et surtout, est-ce que ça existe aussi, cette réflexion, en tout cas, dans votre pays, dans le pays dans lequel vous habitez.
Est-ce que c'est bien vu, bien perçu ? Est-ce que le débat existe comme en France ? Donc, laissez-nous un commentaire sous l'épisode. On est encore une fois super curieux de connaître ce qui se passe ailleurs.
Bah ouais, parce que évidemment, chaque endroit, chaque lieu a sa particularité. Moi, je trouve ça passionnant de ce point de vue-là. N'oubliez pas aussi les 5 étoiles, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important pour le référencement, pour la visibilité de notre podcast Violaine. Je crois que c'est bon.
Ouais, on va vous laisser. Alors, on se dit à la prochaine.
Prenez soin de vous.
Ciao.